Bonjour à tous. Je souhaiterais vous mettre à contribution ce matin. Je souhaiterais vous poser une question. Quel est le point commun entre les deux images qui sont projetées là? Vous avez quelques secondes pour chercher. Alors, les deux, c'est du sport. J'ai un début de réponse qui traîne un peu dans la salle, mais pour ceux qui auraient peut-être besoin d'un petit peu d'aide, que vous pensez de cet indice-là? Et il y a même des anglophones dans la salle, vu que je n'ai même pas à me dire pourquoi il y a marqué John 3:16. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un nouveau tifo dans un stade? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la manière de supporter une équipe? Non. Avec, grâce à vous, même pas besoin de chercher. C'est Jean 3,16. Et la question d'après, c'est quoi Jean 3,16? Là, c'est un peu plus diffus. Mais à la base, c'est un verset de la parole de Dieu. C'est un verset qui nous parle de Jésus, qui nous parle justement d'une rencontre qu'il a eue avec une personne. Et ce matin, nous allons tout simplement reparcourir ensemble ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi ce verset se trouve dans un stade? Qu'est-ce qui fait que ce verset soit un de ceux qui soient, on va dire, les plus connus, peut-être les plus diffusés par les chrétiens? Qu'est-ce qui fait que ce verset est peut-être celui que vous connaissez le mieux? Ou en tout cas, on peut essayer de le réciter de cette manière-là. Parce que ce verset nous résume et nous parle de l'Évangile. Parce que ce verset nous parle de l'œuvre de notre Seigneur. Et ce matin, nous allons tout simplement parcourir ensemble ce verset et nous arrêter sur certains points qui pourront nous encourager, qui pourront aussi nous interpeller, même si, pour certains, avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 décennies, ce verset a une signification pour eux. Et peut-être pour d'autres, avec aucune décennie de vie chrétienne, je vais le dire de cette manière-là, ce verset a autant de vérité et autant d'appel et autant d'impact par rapport au Seigneur lorsqu'il le partage. Alors, un peu de contexte. Joël nous a lu Jean chapitre 4 et ce verset, Jean chapitre 3, jusqu'à là, vous me suivez. Et c'est un temps de rencontre où Jésus, dans le soir, il y a une personne, un pharisien, un des chefs religieux, qui vient vers lui, Nicodème, et qui vient le voir, et qui parle de lui comme étant d'un prophète. Et le Seigneur Jésus a un échange avec lui, lui parle de vie nouvelle, mais surtout cite ce verset. Alors, nous n'allons pas rentrer et être vraiment dans ce contexte-là, voir par ce que Nicodème dit de cette manière, Nicodème étant ce pharisien. Donc, vous pourrez prendre le temps de le lire à la maison, bien entendu, mais nous allons vraiment nous arrêter sur des aspects de ce verset et ce que cela nous enseigne. Dieu a tant aimé le monde. Nous avons Dieu qui a créé toutes choses. Nous avons le Seigneur qui a créé ce monde. Nous avons le Seigneur qui aime ce monde. Et lorsqu'on parle d'amour, ici, on parle de cette proximité de Dieu avec sa créature. On parle de Jésus qui, partant de la Judée vers la Galilée, passe par la Samarie. On parle de ce désir de proximité et ce désir d'échange que le Seigneur a. Non pas quelqu'un qui met les choses en place et puis regarde au loin, mais quelqu'un qui veut être dans nos vies, qui veut être présent dans ce que nous vivons, qui veut être à nos côtés à tout moment. Et plusieurs versets de la Bible parlent justement de l'amour de Dieu pour sa créature. Je vous en cite quelques-uns. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Un autre passage de Jean, donc 1 Jean 5, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Un autre passage, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, comme nous venons de le chanter. Et enfin, Éphésiens, dans ce passage où, justement, l'apôtre Paul rappelle que nous étions morts, c'est-à-dire loin de Dieu par nos offenses. Mais il nous dit, mais Dieu, qui est riche en bonté et en compassion, à cause du grand amour dont il nous a traités. Pourquoi tant de rappels de cela? Pourquoi tant de versets nous parlent de cet amour de Dieu? Parce que c'est un de ses attributs. Parce que c'est une des caractéristiques de notre Dieu. Si un chrétien ou une personne vous parle de Dieu, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, je ne sais pas combien de temps, mais ne vous parle pas de son amour, peut-être cette personne a une mauvaise compréhension, ou peut-être cette personne a besoin, tout comme vous, tout comme moi, de s'asseoir devant la parole de Dieu, de l'ouvrir et de regarder ce qu'elle nous dit, de qui Dieu est, de ses attributs, de ses caractéristiques. Alors, pourquoi cette mention plusieurs fois? Imaginez, vous avez un entretien ou un rendez-vous important. Alors, pour certains, la maison, l'appartement va être décoré de post-it. Marqué, porte d'entrée, tel jour, telle heure, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous. Le matin, en se réveillant, peut-être collé sur la table où le petit déjeuner aura lieu, n'oublie pas ce rendez-vous. Peut-être notre épouse, notre époux aura aussi marqué « N'oublie pas ce rendez-vous ». Peut-être même dans la porte des toilettes, il y aura marqué « N'oublie pas ce rendez-vous ». Et peut-être, juste avant de mettre les chaussures, tiens, il y a quelque chose dans la chaussure, on sort, il y a une petite boulette marquée « N'oublie pas ton rendez-vous ». Pourquoi parfois, c'est un peu exagéré, je vous l'accorde, mais pourquoi parfois nous avons cette habitude justement de marquer plein de choses ici et là? Dans quel but? Afin de ne pas l'oublier. Afin que cela soit quelque chose auquel nous pensions. Afin que nous n'oublions pas cela. Et de la même manière, la Bible nous parle de l'amour de Dieu pour nous, pour sa créature. Que ce soit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. La Bible nous parle de cet amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ, afin que nous ne l'oublions pas, nous qui sommes tellement faciles à oublier. Mais l'amour n'est pas le seul attribut de Dieu, l'amour véritable. Dieu est aussi justice, Dieu est aussi sainteté, il est aussi celui qui est souverain. Il est aussi celui qui a une sainte horreur, si je peux le dire de cette manière, du péché. Et dans ce passage de Jean 3, 16, il est question justement du fait et du péché. Le péché est ce qui fait que ce lien qu'il y avait entre Dieu et les hommes et sa créature est devenu deux falaises éloignées l'une de l'autre. Est devenu, au travers de ce qui s'est réalisé avec l'entrée du péché, deux vies qui ne peuvent pas être ensemble. Lorsque nous lisons, peut-être pour nos enfants, des livres qui nous parlent justement de la parole de Dieu, l'étape d'avant dont on vient de parler, tout est beau, tout est lumineux. Et lorsque nous arrivons à la page qui nous parle justement de cette séparation-là, tout devient obscur, tout devient sombre. Parce que cela a de l'impact, a eu cet impact, par rapport à ce lien que Dieu avait avec nous. Et voici le premier impact dont nous pouvons parler du péché. Cette séparation de ce lien que nous avons avec Dieu. Et parfois, nous ne réalisons pas ou nous passons rapidement dessus l'impact du péché. Et que le Dieu, créateur de toutes choses, celui qui aime sa créature, a été amené à voir cette séparation par rapport à ce lien qu'il a avec elle. Séparation. C'est un peu comme lorsqu'on voit certains documentaires, un iceberg qui est lié à la banquise et qui se détache. Et là, l'iceberg dérive. L'écart entre l'iceberg et la banquise se fait est d'autant plus visible. Et il n'y a pas de retour possible pour l'iceberg. Mais dans ce que nous avons chanté, dans ce que ce matin nous sommes en train de partager, nous savons que par rapport à notre relation avec Dieu, il y a un retour possible. Il y a l'effet de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, excusez-moi, pour justement avoir ce lien, nous permet de pouvoir passer de cette falaise à celle qui se trouve de l'autre côté. Le deuxième impact du péché est aussi le fait que le verset nous parle justement du fait de périr et d'aller en enfer. Et lorsque nous voyons cela, nous nous disons le péché, dans le fait qui a amené cette séparation, un des impacts aussi a été le fait que notre vie, nous sommes amenés à avoir un temps de vie sur terre réduit. Le psaume 90 nous parle durée de 70 ans, voire 80 ans pour les plus robustes. Le Seigneur nous permet pour une grande partie, ou en tout cas pour beaucoup, d'aller bien au-delà et qu'il soit béni pour cela. Mais avec cette mort physique qui est entrée, si nous nous trouvons de ce côté, il est question justement, lorsque nous sommes amenés à mourir, à aller en enfer. Peut-être un mot que nous avons du mal à partager, peut-être qu'un mot lorsque nous parlons avec nos contemporains, qui a du mal à sortir. Et pourtant, le Seigneur nous parle de cette vérité-là. Il nous parle du fait que si nous sommes de ce côté et que nous ne lui appartenons pas, tel est là où nous sommes amenés à aller, à une vie loin de lui, à une vie où ce lien avec notre Dieu n'est pas possible, à une vie où un lieu où la parole de Dieu parle justement d'un lieu où il y a un feu qui ne s'éteint pas et un lieu où il y a des grincements de dents. Et la question que nous pouvons nous poser individuellement ce matin, c'est quelle place je veux laisser ou je laisse au péché dans ma vie. Ce péché qui a amené cette séparation-là. Quelle est la place du péché dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je vis assez bien, je vais le dire de cette manière-là. Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'interpelle? Ou devant le Seigneur, quelque chose qui me fait horreur? Parce que je sais que c'est ce qui a amené cette séparation entre Dieu et le monde. Parce que je sais que c'est à cause de cela que Christ est venu mourir sur la croix. Pour que cela ne soit plus sur mes épaules, sur tes épaules. Parce que je sais, comme nous l'avons entendu aussi dans une des prières, c'est Jean-Pierre qui a prié par rapport à cela, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous en sommes délivrés. Et que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel et que nous ne soyons plus soumis à ses désirs. Nous pouvons lire dans Romains au chapitre 6, verset 12. Il y a une réconciliation possible, et tel est cet espoir que le Seigneur Jésus nous donne. Il y a une fin qui est heureuse, et tel est ce que nous pouvons lire en lisant l'ensemble de la Bible, de la révélation de Dieu. Il y a un espoir, et cette personne, cet espoir, c'est une personne, Jésus-Christ. Et le fait de lui appartenir fait que nous sommes justement amenés à être délivrés de l'esclavage du péché, de ce lien qui nous retient, et à lui appartenir et avoir un attachement à qui il est. La suite de ce verset nous parle justement du fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous avons chanté cela. La Bible nous parle de la vie éternelle comme étant cette relation avec le Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà les paroles que Jésus a menées à prononcer dans Jean chapitre 17. À parler de ce lien que Dieu veut avoir avec nous. À parler de cette vie éternelle que lui nous donne. Et à savoir que, même si nous mourons physiquement, nous sommes pour l'éternité avec lui. Nous lui appartenons. Et merci Joël et merci au groupe de louanges pour ces chants que nous avons chantés, qui ont parlé du fait que nous sommes rachetés par rapport à l'œuvre du Seigneur, qui ont parlé du fait que nous sommes affranchis, que nous sommes libérés par rapport à cet esclavage du péché, qui ont parlé du fait que, oui, notre destinée en ayant Jésus-Christ, et si nous avons reconnu qui il est, est le ciel. Et quelle grâce de pouvoir ensemble lui être reconnaissant. Quelle grâce de pouvoir ensemble chanter à plein poumon ou bien peut-être juste dans nos têtes, mais de pouvoir partager ce temps ensemble. Et le dimanche matin, lorsque nous nous réunissons, il y a ce temps de célébration. Il y a ce temps de joie de pouvoir tout simplement dire « Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre, pour moi, pour mon voisin, pour ma voisine, pour l'humanité, pour nos enfants, pour ceux qui ne te connaissent pas pour le moment, mais tu l'as fait pour eux. Et notre prière est que eux aussi puissent justement fléchir le genou et reconnaître qui tu es et reconnaître ton œuvre. » Et cette œuvre, c'est justement ce lien qui nous permet de passer de cette falaise-là à l'autre falaise. Pour ceux qui aiment bien le sport en nature, notamment les via ferrata, etc., il y a au niveau de la Colmiane, donc des tyroliennes qui permettent justement de passer d'un sommet à l'autre. Et il y en a un donc, avec un dénivelé de 2600 mètres environ. Alors, soit on regarde devant soi, soit on regarde là-haut, mais la plupart du temps, on évite de regarder en bas. Et cette tyrolienne qui a été mise, c'est une image bien entendu par des hommes, pour justement relier ces deux sommets. Dans le cadre de notre vie sans le Seigneur et notre vie avec lui, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le fait que Dieu a donné son Fils unique pour que ce lien ait lieu. Il y a quelques semaines, je discutais avec une personne qui, du coup, une personne qui nous visitait, qui m'a dit « Je suis choqué d'entendre qu'un père donne son fils. » Là, en question de donner ici, il est vraiment question de la mort de Jésus à la croix. Il dit « Oui, je suis choqué qu'un père donne son fils pour d'autres. » J'espère que vous l'êtes aussi. Mais cela met d'autant plus en lumière ce que le Seigneur a fait pour nous. Cela met d'autant plus en lumière son amour pour nous. Cela met d'autant plus en lumière combien il nous aime pour que nous qui étions loin de lui, ennemis, comme la Bible nous dit, nous soyons maintenant, comme nous l'avons chanté ce matin, enfants de Dieu. Enfants de Dieu, quel privilège de se dire au travers de ce qu'il a accompli. Nous pouvons dire que nous lui appartenons et que nous sommes enfants de Dieu. Et combien la croix, lorsque nous en parlons, lorsque nous le chantons, lorsque nous sommes amenés à partager justement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est une étape importante aussi de celle de cela. La plupart du temps, dans les livres que nous lisons ou dans les histoires que nous racontons à nos enfants ou à nous-mêmes, hein, dans les livres, bien sûr, c'est aussi des histoires pour nous, il y a un petit peu ce schéma dans le fait de raconter une histoire où on part d'une situation qui semble belle, idyllique, et on se retrouve dans un fossé, dans une situation où rien ne semble permettre de pouvoir s'en sortir. Et là, quelque chose se passe. Il y a, vous pouvez le voir aussi dans les films, il y a un événement qui fait qu'il y a un espoir au bout. Et à la fin, la plupart du temps, tout se passe bien et les choses finissent dans le bon sens. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants dans certains des films. Mais quelle grâce pour nous de savoir déjà quelle en est la fin pour de savoir que le Seigneur a accompli cela. Et que bien avant que nous ne soyons sur terre, bien avant que je ne vienne sur terre, et vous aussi, la fin était préparée. Fin, F-I-N. La fin était préparée pour que derrière, nous puissions nous dire merci Seigneur de tout ce que tu as mis en place. Et où j'ai ma responsabilité et du coup de pouvoir accepter ce que tu as accompli. Où ma responsabilité est de pouvoir croire en ce que tu as accompli. Ici, le fait de croire n'est pas juste d'accepter une réalité historique en disant « Oui, Jésus-Christ a vécu sur terre ». Croire n'est pas juste de se dire « Ok, c'est possible » et on s'arrête là. Croire va bien au-delà de cela. Il est question dans le fait de croire de mettre sa confiance. Non pas « je teste, j'essaye ». On teste, hein, la plupart du temps. Ok, ça a l'air d'être stable, notamment en plus si on est sur des ponts de singes. Je suis très via ferrata aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On teste la solidité de la passerelle avant de s'y engager. Mais là, croire en Jésus et d'avoir cette confiance que nous voulons avancer avec lui. Que nous voulons qu'il soit le Seigneur de notre vie, que nous voulons qu'il soit le Sauveur de notre âme, que nous fléchissons le genou devant lui et reconnaissons que nous voulons vivre pour lui. Et nous changeons d'objectif, non pas une vie centrée sur nous, mais une vie où notre désir est de pouvoir justement refléter l'amour de Dieu. Déversé par Jésus-Christ en nous, mais aussi pour tout un chacun, mais aussi pour ton voisin, mais aussi pour ta voisine, mais aussi pour ton collègue de travail, mais aussi pour ton compagnon à l'école, mais aussi pour ton ami à la fac, mais aussi pour un ami ou une personne dans une maison de retraite, pour tout âge et pour toute personne. Et c'est en cela que nous pouvons dire merci à notre Seigneur, parce que cela est pour que quiconque croit en lui. Lorsque j'étais enfant, donc en grand fan de basket, j'aimais coller ma photo sur les posters de Jordan pour dire « voilà, c'est moi, regardez, je suis beau, je suis capable de faire soi, avec écrit le maillot 23, voilà, c'est moi ». Vous pouvez le faire, ou vous l'avez peut-être déjà fait, je ne vous demande pas de m'en dire plus. Que ce soit par rapport à des personnes que vous aimez bien, au milieu du sport, des artistes peut-être avec vous, avec un micro de cette manière-là, en train de chanter, en ayant mis une photo de vous. Pourquoi ? Avec cette perspective de dire, voilà, je suis quelqu'un, on va le dire un peu de cette manière-là, j'ai fait quelque chose, je m'identifie à cette personne par rapport à ce qu'elle a réalisé. Et c'est là où parfois, en tout cas, pour moi, c'est arrivé. Le réveil sonne. Et là, on se réveille, on dit « Ah, ce n'était qu'un rêve. » Ça s'arrête là. Il va falloir se réveiller, se préparer, aller en cours ou aller au travail. Du retour à la réalité, on peut le dire de cette manière-là. Mais ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que tout un chacun, nous n'avons pas besoin de dire « je vais coller ma photo pour être quelqu'un ». Je vais me prendre en photo avec la bonne lumière, le bon éclairage, être prêt, être bien préparé avant cela. Non. C'est que tout un chacun, dans ce quiconque nous pouvons nous y mettre, dans ce quiconque qui croit, ça peut être chacun d'entre nous. Et tout a été accompli par le Seigneur. Tout a été accompli par le Seigneur. C'est pas moi qui ai fait quelque chose, qui suis cette personne qui, avec qui je mets ma photo, mais c'est lui qui accomplit cela pour que tout simplement je puisse devant lui reconnaître cela et m'identifier, fléchir le genou devant lui et dire « Oui Seigneur, tu as réalisé cela pour moi et c'est toi que je veux suivre. C'est pour toi que je veux vivre. Je reconnais où j'en étais. » De ce côté, où la personne qui comptait, c'était moi, 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 moi et moi, où j'avais sans doute quelques qualités humaines, mais bien loin de ton désir de sainteté, bien loin de ce que toi, tu veux pour moi, bien loin de ce que toi, tu voulais comme relation avec ta créature. Et Dieu, dans son amour, je pensais à ce que j'allais dire, mais en fait, c'est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors la question est, suis-je de ce côté encore aujourd'hui? La question est, suis-je de ce côté aujourd'hui? La question pour chacun d'entre nous, ce quiconque, au lieu d'avoir quiconque, si je mets mon prénom, ou ma photo, si vous souhaitez. Qu'est-ce que ce verset me dit de mon lien, de ma vie avec le Seigneur par rapport à ce qu'il a accompli pour moi? Je nous encourage à ce que nous puissions nous poser cette question, à ce que nous puissions être dans ce désir justement de célébration et de louange et de remerciement et de reconnaissance si nous avons reconnu qui il est, si nous avons fléchi le genou devant lui, devant la vie éternelle qu'il nous donne, devant ce qu'il a accompli pour nous, de nous interroger si nous sommes de ce côté à notre destinée, en tout cas notre où nous allons, je vais le dire de cette manière-là, et qu'il n'est pas trop tard pour que ce lien-là, accompli par la croix de notre Seigneur, puisse être justement cette passerelle, cette main tendue que nous saisissons pour passer de cette falaise à l'autre, où aucunement par nos efforts nous puissions le faire, aucunement. Et grâce soit rendue au Seigneur du fait que nous qui étions loin, nous qui étions ses ennemis, nous sommes maintenant appelés ses enfants parce que nous avons saisi cette œuvre à la croix. En guise de conclusion, je souhaiterais juste parler de ce schéma. Ce schéma vient d'un ouvrage qui s'appelle « Les sept signes de Jean » qui parle justement de sept miracles que l'évangéliste Jean décrit dans son évangile et où justement il est question par rapport à ces sept miracles, de ce que ces miracles nous parlent de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas les seuls miracles que Jésus accomplit, mais combien ces miracles nous parlent justement de qui Jésus est, de ce qu'il a accompli pour nous, de ce qu'est notre foi en lui et aussi, humainement parlant, de qui nous sommes. Avec nos fautes, nos défauts. Et ce schéma aussi, là, vous l'avez sur un écran. Il peut être fait sur une feuille de papier de ce format-là. Il peut être fait sur un mouchoir de table au restaurant. Il peut être fait sur un tableau blanc dans une salle de classe. Il peut être fait à tellement d'endroits. Et peut être un support aussi pour le chrétien, dans le fait de communiquer l'amour de Dieu, de communiquer cet évangile, de communiquer la bonne nouvelle de ce que Dieu a accompli pour la personne à qui nous avons en face de nous. Et elle puisse repartir avec. Et peut-être quelques années plus tard, vous le ressortir. Et dans ce cas, encore plus de joie de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble par rapport à l'œuvre qu'il fait dans le cœur de chacun. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu t'es révélé dans ta parole, dans la Bible. Et Seigneur, tu nous parles de ton amour. Tu manifestes ton amour à tant de reprises, à tant d'endroits. Et Seigneur, tu nous parles aussi et tu prépares ce que tu as accompli en Jésus-Christ pour que quiconque puisse, en reconnaissant cette œuvre, passer de ce monde sans toi à cette vie éternelle que tu donnes, non pas par nos mérites, mais par rapport à ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, merci pour cette passerelle que tu as faite. Merci parce que, Seigneur, nous pouvons dire « Mon Dieu, mon Père », parce que cette passerelle a été. Et elle s'est faite au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de ce don volontaire de sa vie pour que nous n'ayons pas à porter nos fautes, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et Seigneur, que ce verset, Jean 3,16, que plusieurs connaissent ou que peut-être nous avons appris quand nous étions petits, ou peut-être que nous avons entendu, ou peut-être vu dans les années 70-80 dans un stade, puisse être une réalité dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, pour ce qu'elle nous révèle de toi et comment elle impacte nos vies, afin que nous venons à toi et que nous reconnaissons qui tu es. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.